Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Frédéric Becbédé
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RTL. Avec lui, l'amour dure 3 ans. Frédéric Becbédé est l'invité du journal inattendu. Romancier, scénariste, réalisateur, éditeur, acteur, il ne s'économise pas. Son actualité est multiple. Il publie un dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui. Et il sera en fin de semaine prochaine sur la scène du Théâtre Édouard VII avec L'amour dure 1h15. Bonjour oui. Frédéric Becbédé.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bon alors, ça dure 3 ans ou ça dure 1h15 l'amour ?
Ça rétrécit jour après jour. Non, pas du tout, mais bon, un spectacle qui durerait 3 ans, je me suis dit que c'était un peu pénible.
Peut-être un peu long.
Donc voilà, donc 1h15 c'est bien, c'est une bonne promesse.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer une heure ensemble. Et que d'amour, il sera forcément question. Mais d'abord, les informations que je vous invite à commenter avec moi. Un drame à Valenton dans le Val-de-Marne. Un adolescent est mort poignardé par un autre jeune. Il s'était retrouvé pour finaliser la vente d'un jogging sur Vinted. Le veto des États-Unis à une résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza, l'enclave où la situation est catastrophique selon un médecin de MSF qui vient d'y passer 3 semaines. Vous l'entendrez. Les courses de Noël, plus que 3 week-ends pour remplir la hotte. Mais après avoir profité du Black Friday, les Français se précipitent-ils dans les magasin. Nous sommes allés voir. Enfin du sport, la 15e journée de Ligue 1 avec le PSG face à Nantes ce soir, le début de la Coupe d'Europe de rugby et 8 clubs français en lice, et puis Tony Oka qui remonte sur le ring. Et pour la météo, je me tourne vers vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Alors Valérie, ça n'est pas le plus beau week-end de l'année que vous nous annoncez.
Alors pas vraiment, c'est vrai. Pour autant, on a des températures relativement douces, ça va compenser un petit peu. Une dégradation traverse le territoire. En ce moment, on a de grosses pluies actuellement, plutôt vers les régions du nord-est et en glissant vers le massif central. Des pluies assorties de fortes rafales de vent jusqu'à 70 km/h, y compris dans les terres. Et le Puy-de-Dôme passe même en vigilance orange pour des vents violents ce soir avec des rafales qui pourraient friser les 100 à 110 km/h en pointe. Pendant ce temps-là, les régions méditerranéennes vont, elles, profiter du soleil après les trombes d'eau qu'ils ont eues hier. Et puis Normandie, Bretagne et Pays de Loire retrouveront des éclaircies cet après-midi avec 10 degrés attendus à Grenoble, 13 à Cambrai, 14 à Paris, 15 à Rennes et Toulon, 16 à Toulouse et un magistral 20 degrés à Pau.
Merci Valérie pour cette météo très humide.
Le journal inattendu sur RTL.
Commençons par ce fait divers. Cet adolescent qui a reçu un coup de couteau mortel hier à Valenton dans le Val-de-Marne. Cette fois, pas de guerre de bande, mais un rendez-vous symptomatique de cette génération conclu sur Vinted pour vendre un jogging. L'agresseur est un autre adolescent, Plana Radenovic, et c'est sa mère qui a appelé la police.
Oui, car l'adolescent de 17 ans menace en pleine nuit de sauter de la fenêtre de son appartement au 3e étage. Le jeune homme, connu des enquêteurs pour des vols, dit qu'il a fait une grosse bêtise, de source policière. La mère appelle le 17. En garde à vue, le fils reconnaît avoir porté le coup de couteau mortel hier soir à Valenton. Il est plus de 20h alors quand un jeune homme de 16 ans se rend à un rendez-vous conclu sur Vinted. Il est accompagné de 2 autres jeunes. Il vient vendre un jogging de marque. Sur place, 6 hommes encagoulés l'attendent. Une bagarre éclate. Il est poignardé à la cuisse, décédé malgré l'intervention des secours. Son cousin qui l'accompagnait a été touché lui aussi à la cuisse, mais ses jours à lui ne sont pas en danger. L'enquête se poursuit pour retrouver les autres jeunes qui se trouvaient à ce rendez-vous.
Les informations de Plana Radenovic du service police-justice de RTL. C'est la plus grande opération jamais menée en France en matière de pédocriminalité. 80 personnes ont été interpellées cette semaine pour avoir téléchargé ou partagé des images pédopornographiques. Tous des hommes, certains en contact avec des mineurs du fait de leur activité. 2 professeurs des écoles, 1 surveillant de nuit dans un foyer d'enfants en situation de handicap ou encore un ambulancier. 15 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Au procès de Monique Olivier, coup de froid à l'audience hier alors qu'est évoquée la disparition d'Estelle Mouzin. Un policier chevronné, Philippe Guichard, qui avait mené l'enquête au départ avant d'en être dessaisi au profit des gendarmes, est venu dire son scepticisme sur la responsabilité de Michel Fourniret et de son épouse dans cette affaire. « Je ne crois pas que Michel Fourniret soit un pédophile », a-t-il ajouté. Des propos qui ont suscité une vive émotion chez les parents de la fillette et chez leur avocat, maître Didier Seban. Il était ce matin l'invité de Stéphane Carpentier sur RTL.
Comment peut-on parler d'une enquête dont il dit qu'il ne la suit que par la presse? C'est un des plus hauts policiers de France et il vient dire le réquisitoire du procureur de la République, la décision du juge d'instruction de renvoyer Monique Olivier devant la cour d'assises, eh bien tout ça ne vaut rien. On attend des réactions du ministre de l'Intérieur. Enfin, ça n'est pas possible.
Comment réagit la famille d'Estelle, le papa par exemple que vous représentez, Éric Mouzin?
Il est atterré d'entendre encore cette espèce de révisionnisme judiciaire. Éric Mouzin avait raison de dire lors de son intervention, finalement, Monique Olivier a deux avocats, Richard Delgenès, qui est son avocat devant la cour d'assises, et puis la PJ de Versailles. Je n'attendais vraiment pas ça du grand policier que nous entendions devant la cour d'assises.
Maître Didier Seban, avocat de la famille d'Estelle Mouzin. Au Proche-Orient, pas de cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Une résolution a été examinée au Conseil de sécurité de l'ONU hier soir. Bilan 13 voix pour, mais les États-Unis ont posé leur veto. Ce matin, Israël a poursuivi ses bombardements sur Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de plus de 17 000 morts dans l'enclave depuis le début du conflit. Christophe Garnier est médecin pour MSF. Il vient de passer 3 semaines dans la bande de Gaza. Écoutez son témoignage au micro d'Émilie Beaujard.
C'est une catastrophe. Il y a à peu près 1 million de personnes réfugiées dans les écoles et les hôpitaux. Et donc on se retrouve avec un afflux massif sur Rafah et sur Al-Sultan qui sont complètement au sud. Et comme il n'y a plus aucune place nulle part, c'est des shelters de fortune qui sont construits dans les rues, dans les terrains vagues, etc. avec 3 morceaux de bois et un bout de plastique. Mais en plus, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas d'accès à l'eau. On va vraiment vers une catastrophe sanitaire, humanitaire, tout ce que vous voulez. Il y a énormément de morts. En fait, la majorité des blessés arrivent dans des cas extrêmement graves. Et donc, il y a beaucoup de morts et parmi eux, beaucoup d'enfants. Je me souviens notamment d'une journée où ils ont reçu 112 personnes en l'espace de quelques heures à l'hôpital. Et en fait, sur 112, il y a eu 70 morts.
Le témoignage d'un médecin de MSF, l'ONG, qui déplore l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU. La famille de Mahsa Amini devait venir à Paris pour retirer le prix Sakharov, prix européen pour les droits humains, attribué à la jeune iranienne morte après avoir été interpellée pour un voile mal ajusté. Mais ses parents et son frère n'ont finalement pas pu prendre l'avion. Leurs passeports leur ont été confisqués. Le décès de Mahsa Amini avait provoqué des manifestations de grande ampleur en Iran et un mouvement de révolte contre le régime. Dans un instant, on va parler du nouveau malaise de Pierre Arditi sur scène hier soir. A tout de suite, restez avec nous.
Le journal inattendu.
Frédéric Becbédé, Nathalie Renaud.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Frédéric Becbédé et Nathalie Renaud.
Au théâtre Édouard VII, hier soir, la pièce Lapin n'a pas pu aller à son terme. L'acteur Pierre Arditi, 79 ans, a fait un nouveau malaise après 25 minutes de jeu. Il a été pris en charge par des médecins. L'attaché de presse avait fait savoir qu'il remonterait sur scène dès ce soir. Mais finalement, on apprend qu'il ne rejouera pas avant mercredi. Fin septembre déjà, il avait fait un malaise en pleine représentation. Puis, il avait dû être arrêté en octobre pour cause de fatigue. Frédéric Becbédé, un acteur qui va jusqu'au bout comme ça, ça vous fait réagir ?
Non, mais je l'aime énormément et en plus, je joue dans le même théâtre. Donc, je le croisais tous les soirs quand il sortait de scène. Et on plaisantait là-dessus, il a tellement d'humour et tellement de sensibilité. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et on est évidemment tous très inquiets et effondrés. Et puis voilà, j'ai pas de nouvelles récentes, j'espère qu'il va bien et qu'il va se reposer.
Il se repose et a priori, il remontera sur scène mercredi. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Oui. Plus que 2 semaines avant Noël, la course aux cadeaux est lancée. A priori, avec l'inflation, les problèmes de pouvoir d'achat, l'enveloppe moyenne est en baisse. Mais est-ce que ça se vérifie dans les centres commerciaux? Antoine Decarne, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes au centre commercial Lillenium à Lille, alors y a-t-il de l'affluence ?
Non, ce n'est pas l'affluence des grands jours. Malgré les illuminations, les sapins et les Pères Noël qui passent d'escalator en escalator, les rares personnes présentes ne sont pas forcément venues pour les cadeaux.
Est-ce que vous êtes venu faire vos courses de Noël ?
Non. Si on peut profiter de quelques promotions, autant le faire. On échelonne un petit peu jusque Noël.
Alors que les ventes ont augmenté de 2% pendant le Black Friday fin novembre, début décembre est bien morne, Antoine Distantier est le gérant d'un magasin de prêt-à-porter.
On a eu du monde vachement plus le jour du Black Friday. Quoi.
Et depuis le Black Friday, comment ça se passe ?
C'est un peu plus calme. Les gens, ils savent que le Black Friday, c'est offre, c'est remise, c'est tout ça, alors que Noël, c'est compliqué.
Et Patricia, maman de 2 enfants, a déjà fait tous ses achats.
Black Friday, oui, j'en ai profité. Ordinateurs, les casques, c'est intéressant. Les habits aussi.
Et vous avez économisé combien avec toutes ces réductions ?
Au moins 100 euros. faire attention à tout maintenant.
Car avec l'inflation, le timing pour faire les cadeaux a changé pour Christine, une autre cliente.
Pour moi, c'est pas le moment d'acheter. C'est encore trop tôt. Moi, j'attends vraiment la dernière minute. C'est à cette période-là qu'il y a vraiment, on casse les prix. C'est dommage d'acheter maintenant.
Un raisonnement nouveau qui ne fait pas les affaires des grands centres commerciaux.
Merci Antoine Decarne depuis Lille. Et puis si vous comptez acheter des livres pour Noël, eh bien vous pouvez regarder, jeter un coup d'œil au Point qui fait sa liste des 30 meilleurs livres de l'année. Vous pouvez lire aussi le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, voilà, de Frédéric Begnaud. Ça peut aussi vous donner des idées. C'est déjà Noël en tout cas pour le regagnant de l'Euro Million. Un joueur a décroché le plus gros jackpot jamais proposé dans ce jeu, 240 millions d'euros. Aucun détail sur le profil. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'a pas validé sa grille en France. Ça n'est donc pas vous, Frédéric Begbédé.
Oh là là. Mais en tout cas, enfin une bonne nouvelle dans ce journal.
C'est vrai. Et puis, vous avez sûrement un, voire plusieurs événements près de chez vous qui concernent Téléthon. Les dons continuent d'augmenter. Ce midi, ils s'élèvent à 18 800 000 euros. Et vous pouvez continuer à contribuer, à aider la recherche médicale en appelant le 36 37 ou bien sur le site internet du Téléthon. Du sport, voilà des bonnes nouvelles. La 15e journée de Ligue 1, elle a commencé par un match nul sans but, 0 partout hier soir entre Montpellier et Lens. À suivre aujourd'hui Rennes-Monaco à 17h et PSG Nantes à 21h. Une rencontre qui pourrait signer le retour des deux blessés Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Une journée de championnat à suivre dès 19h dans On refait le match avec Philippe Sanfourche. Et bien sûr de 20h30 à 23h avec Eric Silvestro dans RTL Foot. Le rugby, vous aimez le rugby, Frédéric Begbédé ?
Bien sûr que j'aime le rugby, j'habite dans le sud-ouest.
Bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, la première journée de la Coupe d'Europe ce week-end, 8 clubs français engagés. Hier, Bègles-Bordeaux a pulvérisé le Connacht en Irlande, 41-5. Aujourd'hui, Toulon-Exeter, 14h. Le Stade Toulousain, champion de France en titre, et sa star, Antoine Dupont, reçoit Cardiff à 16h15. Puis Munster, Aviron Bayonnais, là ça vous intéresse de près, c'est à 18h30. Et puis le Loup Club de Lyon se déplace à Bristol à 21h. En fin de la boxe, à Roland-Garros ce soir, 6000 spectateurs sont attendus sur le court Philippe Châtrier, garni d'un ring, pour soutenir le français Tony Yoka face au belge Riyad Mehri. Après deux revers et beaucoup de doutes, Yoka joue gros ce soir.
Le journal inattendu de Frédéric Begbédé
avec Nathalie Renaud sur RTL.
Frédéric Begbédé, c'est maintenant l'heure de votre portrait. Alors si des auditeurs ne vous connaissaient pas et que je devais vous présenter, je leur dirais que vous êtes un trublion, un spécialiste du décalage, toujours là où on ne l'attend pas, à la fois fils de bonne famille et oiseau de nuit, intellectuel et people. Des études classiques, Sciences Po, puis une carrière de publicitaire, mais un publicitaire qui rêve d'écrire. Le résultat, c'est 99 francs, roman satirique sur le milieu de la pub, adapté au cinéma par Yann Kounen avec un Jean Dujardin qui semble vous ressembler un peu.
J'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok.
Pense à fermer les yeux quand tu avales. Il faut qu'on sente le plaisir dans ta gorge aussi.
Et tu rêves.
La publication de 99 francs vous vaut d'être licencié de votre entreprise Young & Rubicam. Qu'importe, vous êtes un artiste, un fêtard, un adepte des nuits parisiennes. Vous aimez parler d'amour et le vivre. Avec Laura Smet, les Français s'en souviennent. Être juge et parti. Romancier, prix interallié, prix Renaudot et critique littéraire. Écrivain et éditeur. Et même réalisé. Après avoir été un roman, L'amour dure 3 ans devient votre film.
Enfin, je vais pouvoir avoir un homme qui soit ni un ex ni un futur. Tu seras mon seul ami du sexe masculin.
Ah ouais, comme un gay mais hétéro, quoi.
Tu crois pas en l'amitié homme-femme?
C'est comme l'énergie éolienne, on en parle, mais il n'y en a pas, quoi.
Insatiable, vous cherchez à dépasser vos limites, comme avec ce seul en scène au théâtre Édouard VII. L'amour dure 1h15. Ça n'est pas la même durée, mais toujours la même question. Alors dites-nous, Frédéric Begbédé, c'est quoi l'amour? Vaste champ de réflexion dont vous cherchez la réponse dans tous vos gestes, vos écrits, vos activités. Pourvu que vous ne trouviez pas tout de suite la réponse,
on n'a pas la réponse,
ça nous garantit quelques romans, films et spectacles pour les années à venir.
Très gentil ce portrait. Et il faut dire aux auditeurs, je ne sais pas s'ils ont l'image, mais Nathalie fait beaucoup de mouvements avec ses mains quand elle parle. Et c'est très spectaculaire.
J'aime bien chorégraphier les portraits.
Voilà. Non, c'est évidemment que je ne connais pas la réponse. Et c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je monte sur scène, pour essayer de lire les plus belles déclarations d'amour, les plus grands poèmes, et aussi avec un chanteur sur scène qui s'appelle Émile Fournier, qui chante toutes les plus grandes chansons romantiques. Et donc on se met dans cette ambiance très belle, très sensuelle, très douce. Et on en a besoin en ce moment, franchement, quand on écoute votre journal.
C'est vrai qu'on a besoin d'amour. Voilà. Je voulais vous demander, est-ce qu'avec le temps, avec l'âge, vous avez une vision différente, justement, de l'amour ?
Et je crois, j'étais très puéril quand j'ai écrit « L'amour dure 3 ans ». J'étais désespéré, comme on peut l'être quand on est déçu. Je me suis vengé dans un livre, mais au fond... quand on mûrit, parce que je ne suis pas vieux, hein.
Je n'ai pas dit ça.
Évidemment qu'on accepte un peu plus les défauts des autres et les siens, et puis on apprend à se connaître, et puis on se calme un petit peu aussi sur cette quête hystérique de la passion. Je dis pas que je sois contre la passion, je pense que c'est très important, mais voilà, un peu.
On peut trouver un amour apaisé.
Un peu d'humour, voilà, un peu de complicité, le plaisir du temps aussi. Et justement, la première phrase de L'amour dure 3 ans, le roman, c'était « L'amour est un combat perdu d'avance contre le temps ». C'est pas vrai, ça, je ne le pense plus du tout.
Ouf, ça nous donne beaucoup d'espoir. L'amour de la littérature aussi, on en parle dans votre journal Inattendu. À tout de suite.
À l'amour, l'amour c'est quand tu m'aimes, l'amour c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire.
Le journal inattendu de Frédéric Becbédé avec Nathalie Renoux sur RTL. RTL. Le journal inattendu sur RTL, avec Frédéric Becbédé et Nathalie Renoux.
Voilà, Frédéric Becbédé applaudit sur les Beatles qui chantent l'amour. Votre actualité, Frédéric Becbédé, c'est la publication d'un livre, Le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui. 281 auteurs passés au crible de votre plume, qui est tantôt impitoyable, tantôt laudative. D'abord, comment est-ce que vous les avez sélectionnés, ces 281 auteurs ?
Avec le maximum d'amour, évidemment, mais aussi d'injustice, de mauvaise foi. J'ai voulu être comme un portier de boîte de nuit et dire voilà, toi oui, toi non. C'était le grand plaisir de ce livre, c'était de faire la liste. Mais c'est vrai que c'est aussi un panorama, donc il y a un certain nombre d'écrivains qui ne pouvait pas ne pas y être. Et puis ensuite, c'est aussi très subjectif, bien sûr.
Bien sûr. Alors, il y a une condition quand même, c'est d'être vivant pour être dans votre livre.
Oui, tous les écrivains qui sont dans ce livre sont toujours vivants à l'heure où nous parlons.
Ouf !
Et oui, mais non, mais c'est vrai qu'en plus, malheureusement, il y en a certains qui sont malades, mais ils sont toujours là. Et c'était important parce que ça n'existait pas. Il y a beaucoup de livres sur la littérature, bien sûr, mais un livre où il n'y a que les contemporains, les gens qu'on peut aller rencontrer, qu'on peut croiser, avec qui on peut dialoguer, ça n'existait pas. Alors que ça existait pour la peinture, pour le cinéma, évidemment. Mais pas pour la littérature.
Alors, je l'ai feuilleté, je n'ai pas encore lu les 281 portraits. J'ai l'impression que vous avez un amour tout particulier pour Michel Houellebecq.
Oui, mais bien sûr, c'est un romancier réaliste, global, très ambitieux, très drôle, très mélancolique, très romantique aussi. J'aime ça, il me fait rire, il me provoque. Il me met parfois en colère aussi, mais...
Mais il vous fait réagir.
J'aime la littérature qui dérange. Et je pense que c'est le rôle des livres de nous réveiller, de nous secouer.
Vous avez aussi parfois la dent dure. Je pense par exemple à Karine Thuil, à Delphine de Vigan. Vous ne les avez pas spécialement épargnés. Est-ce que vous avez eu des réactions après la publication de votre anthologie, votre dictionnaire ?
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de ce que j'ai pu dire. Mais j'essaye aussi, sur ces deux auteurs-là, par exemple, j'essaye d'être très objectif, de chercher ce qu'elles ont voulu dire. Et y a aussi beaucoup d'éloges sur les deux. Donc souvent, malheureusement, un écrivain, et c'est mon cas aussi quand je lis un article sur moi, je ne retiens que la phrase qui m'énerve, alors qu'il peut y avoir tout un développement très très flatteur. Et ça, je l'oublie.
Alors, en 2022, sur les 10 auteurs les plus vendus, vous n'en avez retenu que 2 dans votre dictionnaire, Pierre Lemaitre et Annie Ernaux, mais pas de Guillaume Musso, pas de Marc Lévy, pas de Mélissa d'Acosta ou de Virginie Grimaldi. Est-ce que vous diriez que les Français ont mauvais goût en littérature?
Non, mais c'est des auteurs qui sont, à mon avis, qui n'ont pas vraiment envie d'être littéraires. Ce sont des storytellers, ce sont des gens qui racontent des histoires, plus ou moins feel good, comme on dit, c'est-à-dire qui aident à se sentir bien, et qui cherchent pas peut-être à, comment dire, à faire des phrases qu'on a envie de noter. Donc c'est voilà, pour moi, ce sont des, oui, des romanciers, mais plutôt commerciaux.
Et ça n'avait pas la place dans votre livre.
Il y en a, il y a des auteurs qui se vendent beaucoup dans mon livre. Effectivement, vous avez cité Pierre Lemaitre, c'est un bon exemple parce qu'il écrit un roman très populaire, très efficace, et avec quand même une ambition formelle, quoi. Quand il n'y a pas vraiment d'ambition formelle, je les ai
pas
retenus,
ça ne vous
intéresse
pas.
Mais c'est uniquement moi-même que j'engage, hein, voilà.
Alors, vous écrivez que vous vous êtes beaucoup posé la question, mais vous avez laissé Gabriel Matzneff dans cette liste, malgré les penchants pédophiles, malgré le livre de Vanessa Pringora. Ça vous a pris la tête de ce
oui,
cas précis ?
Oui, je me suis posé la question, et puis il y a d'autres auteurs comme ça qui sont cancelés et que j'ai mis dans le livre. Renaud Camus, Marc-Édouard Nab, François-Marie Bagnier. Je pense que j'ai voulu faire un tableau de ce qui existe dans les écrivains vivants. Ce sont des écrivains qui sont vivants, qui choquent, qui sont peut-être pour de bonnes raisons aujourd'hui tenus au silence. Et c'est peut-être pour de bonnes raisons, mais c'est bien d'en parler. Voilà, il faut dire ce qui se passe. Et Matzneff, il a été publié pendant 30 ans par la plus grande maison d'édition française, Gallimard. Il a été chroniqueur dans le journal Le Monde, enfin je veux dire, donc il a existé, il existe, il est toujours là, il faut en parler, il faut regarder en face.
Vous pensez qu'il faut séparer l'œuvre et l'homme?
Non, c'est même pas ça. Alors dans son cas, c'est impossible puisqu'il n'a parlé que de ça,
oui, exactement. L'amour
avec des adolescentes, donc il était, on peut l'accuser de beaucoup de choses, mais il était honnête, il était malheureusement sincère. Non, je pense qu'il faut faire des mises au point et regarder en face et non pas... comment dire, se cacher les yeux et les oreilles comme, vous savez, les singes là, qui veulent pas voir la vérité.
Une question sur la jeunesse. Cette semaine, il y a un classement, le classement PISA, qui a montré que le niveau des élèves français était radicalement en baisse en mathématiques, mais aussi en français. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de la littérature, pour l'avenir de la lecture, de la place du livre dans nos vies,
oui,
dans les années qui viennent ?
Bien sûr, je pense qu'il faut se battre. Il faut peut-être aussi, je ne sais pas si Gabriel Attal l'a mis dans sa liste de mesures, il faudrait des cours d'apprentissage aux nouvelles technologies, c'est-à-dire habituer les enfants à se servir de ces outils, les téléphones, les ordinateurs, mais peut-être aussi apprendre à les éteindre pour faire autre chose. Parce que quand on regarde un écran, on est passif, on ne crée rien et on n'utilise pas son cerveau. Et la lecture, c'est vraiment de la gymnastique pour l'esprit. Et c'est pour ça que je pense que c'est très grave si on lit moins. Moi, je me bats depuis 30 ans, 40 ans pour donner envie de lire.
Est-ce que vous avez peur que les vidéos YouTube remplacent les livres ?
Oui, en tout cas, c'est avéré, d'un point de vue du temps qu'on passe devant les écrans, c'est du temps qu'on passe plus devant les livres. Malheureusement, les journées ne font que 24 heures. Donc, je pense que il faut expliquer ce qu'apporte un livre. Et ce qu'apporte un livre, c'est tout simplement, ça nous rend plus intelligents. Voilà, ça nous rend moins bêtes.
Alors, dans ce dictionnaire, qui aurait pu se glisser entre François Bégaudeau et Aurélien Bélanger ?
Ah, je vois à qui vous faites allusion. Mais l'auteur a son nom sur la couverture, donc ça lui suffit.
Frédéric Becbédé, effectivement, il ne s'est pas glissé parmi ses 281 auteurs préférés. Quand on a préparé cette émission, on vous a demandé vos choix musicaux. Ils sont éclectiques, c'est ce qu'on va voir. Et alors, parmi eux, il y a ce morceau. All my life been so polite. I'm Just Ken, Ryan Gosling. C'est la chanson du film Barbie. Pourquoi ?
J'adore cette chanson. C'est Ken qui est malheureux, qui est fou amoureux de Barbie, qui s'en fout. C'est un homme qui se victimise. C'est ce que j'ai fait dans un livre cette année qui s'appelait Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Je me suis identifié à Ken, voilà. sauf que je ne lui ressemble pas du tout, hein, bien sûr. Mais quand il dit... Where I see love, she sees a friend. Là où moi, je vois de l'amour, elle voit un ami. Je trouve que c'est tellement ouin ouin. On dit ça des hommes aujourd'hui qu'on se plaint trop et qu'on a l'air de ouin ouin, de personnes qui pleurent toute la journée. Et c'est ce qu'il fait.
Notre Ken à nous, Frédéric Becbédé, reste pour une heure d'émission. Et avec vous, on va parler de la scène de votre nouvelle aventure au Théâtre Édouard VII. C'est dans un instant, juste après les titres de 13h.
Le journal inattendu de Frédéric Becbédé avec Nathalie Renaud sur RTL. RTL.
Il est 13h.
Le journal inattendu de Frédéric Becbédé.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renaud.
Ce drame en banlieue parisienne, un adolescent de 16 ans est mort poignardé hier soir à Valenton dans le Val-de-Marne. Cela s'est passé dans la rue lors d'une transaction Vinted. Il a été pris à partie par d'autres jeunes. L'auteur du coup de couteau mortel a avoué son geste à sa mère qui a prévenu la police. 80 personnes arrêtées dans 53 départements. Bilan du coup de filet anti-pédophile mené hier. C'est l'un des plus importants jamais réalisés en France. Parmi les personnes interpellées, deux professeurs des écoles et un surveillant dans un foyer d'enfants. À deux jours de la fin de la COP à Dubaï, colère des défenseurs de l'environnement. Le secrétaire général de l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole, demande à ses États membres de rejeter tout accord ciblant les énergies fossiles. Le Téléthon, la barre des 20 millions de promesses de dons vient d'être franchie. Et si vous voulez être généreux, toujours le même numéro, le 36-37, il est encore temps. En football, la suite de la 15e journée de Ligue 1, deux matchs aujourd'hui. 17h, Rennes-Monaco et 21h, PSG-Nantes. Et puis en rugby, quatre clubs français en Coupe d'Europe cet après-midi et ce soir. Notamment le Stade Toulousain qui reçoit Cardiff à 16h15. Enfin, c'est la tradition dans le journal inattendu. La météo, c'est avec vous, Frédéric Becbédé.
Merci pour l'accompagnement musical d'Elvis Presley. Alors, on m'a donné un texte de météo. Je vais en faire une petite critique littéraire, si vous voulez.
Allez-y, faites comme vous le sentez.
C'est très compliqué de renouveler le genre de la météo en radio.
Mais je suis sûre que vous allez y arriver.
Des pluies et des vents forts traverseront le pays en épargnant l'extrême sud-est. Alors là, excusez-moi, mais c'est un cliché. Il fait toujours beau dans le sud-est, il y en a marre des clichés. L'extrême sud-est qui devrait conserver un ciel bien lumineux avec au pire quelques averses en Corse. Les départements proches des Pyrénées n'auront toutefois que des pluies assez faibles. Alors là, c'est original, pour le coup, parce que c'est vrai qu'il pleut souvent par là-bas. Bon, bref. Par ailleurs, la limite pluie-neige remontera à 1800 mètres dans les Alpes. Bon, bah oui, évidemment, là, c'est encore une fois une banalité, pardon. Les températures iront de 8 à 19 degrés entre la Haute-Savoie et les Pyrénées-Atlantiques. Il fera 10 degrés à Lyon, 12 à Marseille, 13 à Lille, 14 à Paris, 15 à Nantes. Et malgré un ciel nuageux et quelques pluies... Alors là, c'est un alexandrin. Malgré un ciel nuageux et quelques pluies, le mercure atteindra 17 degrés à Guétari. J'adore cette chute. La chute est très belle.
Mais on l'a choisie pour vous.
Merci beaucoup.
Pour le Pays Basque, et on entend cette chanson basque en fond sonore.
Peña Bayona.
La Peña Bayona. Le Pays Basque, votre lieu refuge. On va maintenant parler d'un autre lieu de prédilection vous concernant, la scène, avec un spectacle. L'amour dure 1h15, que vous jouez au Théâtre Édouard VII les 14, 15 et 16 décembre prochains. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on accueille Mathias Luguin, qui s'est penché sur cette périlleuse question de la durée de l'amour. Alors, est-ce 3 ans, comme le dit votre roman? Est-ce 1h15, comme le dit votre spectacle?
Ou est-ce 6 minutes?
Un peu moins, même.
Oh là 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 là, c'est en train de déraper, il n'est que 13h. Mathias.
Oui, bonjour Nathalie. Alors, j'ai bossé un petit peu de mon côté. J'ai essayé de remonter il y a quelques années, il y a 8 ans, quand j'ai passé mon bac de philo. Le sujet que j'ai choisi, c'est « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» Bon. Franchement, si j'avais eu le choix avec combien de temps dure l'amour, je crois que j'aurais repris le même sujet. Mais partons de votre proposition, si vous le voulez bien, Frédéric Becbédé. Est-ce que l'amour dure 3 ans? Réponse du cardiologue Alain Ducardonnet.
Et non, heureusement, ça voudrait dire qu'en fait, il y a une programmation, qu'elle soit génétique, chimique ou psychologique, de l'amour.
Bon, alors double vérification, cette fois avec Raphaël Blarot, lui est prof de chimie.
On entend souvent que l'amour dure 3 ans. C'est vrai, mais c'est faux. En fait, ça dépend de vous.
Bon, alors, ne sois pas d'accord avec vous, soit, mais si c'est entre eux, ça risque d'être encore un peu plus complexe que prévu. Alors, autant élargir notre panel, à qui demander? Un coach en séduction, un sexologue? Et si on cassait un petit peu les codes? Pour une fois, j'ai envie de faire confiance à une artiste, tiens, Chimène Madi. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Tu sais l'amour.
C'est notre façon de voir les choses. Pourquoi pas? Amour relationnel, l'amour en musique, on l'entend. Et l'amour physique aussi, ne faisons pas semblant de l'oublier. Là, on est plutôt sur du 5 minutes et demie en moyenne. Si on en croit les statistiques, hein, c'est pas moi sur les chiffres. On ose demander son avis à l'actrice X, Lisa Del Sierra.
Et 5 vraies minutes après une journée de boulot, tout ça, machin. Franchement, c'est bien.
Bon, ça devrait en rassurer peut-être quelques-uns. Et les Français alors, comment est-ce qu'ils voient les choses?
On dit en général que ça dure 3 ans.
Ça dépend. Je sais pas, moi ça fait 14 ans que je suis avec quelqu'un.
L'amour, ça peut durer toute une vie comme ne jamais trouver l'amour.
Ça dépend du partenaire.
C'est éternel l'amour.
Bon, on va pas réussir à se mettre d'accord. Franchement, c'est certainement mieux comme ça, si ça reste propre à chacun. Le cœur, ses raisons, et ce que la raison ignore, surtout. Mais une chose inévitable en revanche, l'amour, toujours.
Amour toujours, mais pas longtemps, à la folie, passionnément.
Aïe, 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 passionnément à la folie, de quelle manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec vous, l'amour dure 1h15, en ce moment en tout cas, hein, Frédéric Becbédé.
Oui.
C'est une manière de vous interroger sur l'amour à travers la lecture de textes. Comment les avez-vous choisis et est-ce qu'ils vous ont apporté une réponse?
Alors, bien sûr qu'il n'y a pas de réponse et c'est à chacun de faire sa définition. Mais quand on parcourt toute l'histoire de la littérature, depuis 3000 ans, on voit, il y a des points communs entre les textes. Par exemple, les plus grandes histoires d'amour sont tragiques. Ça se termine très très mal pour Tristan et Iseut, pour Roméo et Juliette, pour Hector et Andromaque, pour Johnny Depp et Amber Heard. Bref, c'est quand même toujours très compliqué. Alors il y a ça, et j'ai essayé de faire pendant 1h15 de raconter une histoire d'amour du début à la fin. Donc au début, c'est les rencontres, les grandes déclarations, les poèmes, les lettres. Et puis plus on avance, plus il y a l'usure, il y a le couple, il y a la souffrance, il y a l'absence. Et à la fin, ça se termine sur une lettre de rupture de Françoise Sagan, et la salle est vraiment très émue, je crois. Et moi-même aussi en la lisant.
Mais je vois que vous avez une alliance à votre annulaire, ça veut dire que vous y croyez à l'amour toujours, parce que quand même, oui, on doit répondre à une question quand on se marie.
Mais oui, bien sûr, mais je suis depuis 13 ans avec la même personne.
Ah, l'amour dure 13 ans, ouf.
Voilà, j'espère même plus, mais c'est un livre que j'ai écrit quand j'avais 30 ans, l'amour dure 3 ans.
Est-ce que finalement, il ne faut pas confondre la passion amoureuse, l'état amoureux et l'amour? Est-ce que ce sont deux choses différentes?
On vit dans une société qui nous vend l'amour beaucoup. Effectivement, le cœur qui bat, la frénésie, les comédies romantiques, tout ça, c'est vrai, il y a une sorte d'idéologie, d'utopie qui est un peu vendue aux gens. Et tout d'un coup, quand la vie est calme, douce et complice, ça ne leur suffit pas, parfois. Et oui, vous avez raison, c'est un apprentissage, ça prend toute une vie. Pour s'accepter, accepter l'autre. Il y a un moment dans le spectacle, je lis un poème de Valérie Larbaud où il dit « En amour, pas de mystère, soyons sérieux ou légers, sans oublier que sur la terre, il n'y a que des étrangers. » Et je trouve que j'avais entendu une fois Barack Obama parler de sa femme, Michelle. Il disait « Mais je ne connais pas cette femme, c'est une étrangère. » Je dors avec elle, mais c'est une étrangère. Je trouve que c'est peut-être la plus belle déclaration d'amour.
Bien sûr, c'est une manière de se renouveler éternellement.
Oui, il ne faut pas considérer que quelqu'un vous appartient, jamais. Et qu'on les connaît, on ne connaît personne.
Vous parlez de votre spectacle, j'ai envie de savoir comment vous vous sentez sur scène.
En fait, je suis terrorisé juste avant. Et puis, une fois que je suis sur scène, j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire le cabot. Si les gens réagissent et rigolent ou sont émus, je trouve que c'est très agréable. En fait, ce qu'on oublie de dire sur les écrivains, c'est que souvent on fait des conférences avec des salles. Parfois, il y a 3 personnes, parfois, il y en a plus.
Donc, vous êtes habitué au public.
Et donc, en fait, oui, certains écrivains ont pris cette habitude de s'exprimer en public. C'est pas non plus quelque chose de totalement absurde.
Oui, et puis vous avez fait de la télévision, de la radio, donc vous êtes habitué à ça. On va continuer avec les choix que vous avez faits pour cette émission. Parmi ces choix musicaux, il y a ce morceau d'Handel. La musique classique,
oui,
pourquoi ce choix?
Quand vous m'avez demandé de choisir des morceaux, je me suis souvenu que je travaille sur une radio concurrente qui s'appelle Radio Classique. Et en animant une émission littéraire, je demande aux invités de choisir eux aussi des morceaux. Donc je fais la même chose que vous, sauf que c'est des morceaux de musique classique. Et j'ai découvert beaucoup de belles chefs-d'œuvre. Et celui-ci en fait partie, c'est très très beau, c'est Handel.
Et on va justement accueillir une musicienne classique, une violoncelliste. Camille Thomas est avec nous. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors, quel est votre lien avec Frédéric Becbédé? Ne répondez pas maintenant, vous nous le direz dans un instant, juste après cette réinterprétation au violoncelle d'une sonate de Chopin, qui est la vôtre. À tout de suite.
Le journal inattendu de Frédéric Becbédé avec Nathalie Renaud sur RTL. Le journal inattendu de Frédéric Becbédé
avec Nathalie Renaud sur RTL.
Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Becbédé, mais aussi de Camille Thomas, violoncelliste. Bonjour à vous Camille.
Bonjour et bonjour Frédéric.
Bonjour Camille, ça va?
Ça
quelle
va
surprise
très bien.
Ils m'ont rien dit, je ne savais pas moi.
Hein. Oui, alors, c'est une surprise.
Camille Thomas, vous allez nous raconter votre rencontre avec Frédéric Becbédé. Comment d'abord vous avez fait connaissance?
On s'est rencontrés sur un plateau télé où Frédéric parlait de son dictionnaire amoureux des écrivains vivants, français vivants. C'est ça le titre exact?
Oui. Dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils
d'aujourd'hui.
Sont vivants.
Mais ils devaient être vivants, ça je me souviens.
Voilà.
Et aussi, on parlait de ce spectacle. Et je me souviens t'avoir dit qu'il y avait des chansons merveilleuses d'amour. Et te demander s'il y aurait de la musique dans le spectacle. Parce qu'évidemment, moi, je m'intéresse toujours à la musique. Et on avait parlé de Jane B aussi dans cette émission.
Oui.
Et puis, le lendemain, j'ai reçu un mail me demandant si je voulais venir faire Jane B avec toi.
Eh bien, justement, on l'entend, ce Jane B.
Apprends les dessins
et Camille Thomas, si vous avez proposé d'interpréter Jane B, c'est aussi parce que vous l'avez enregistrée vous-même avec Jane Birkin.
Exactement, c'est la dernière pièce qu'elle a enregistrée avant de disparaître, donc quelques mois avant sa mort, et c'était un moment incroyable, très émouvant, un peu comme ses chansons, c'est un peu comme son testament. Elle m'avait dit, c'est la chanson de ma vie. Et donc évidemment, dès que Frédéric m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse cet hommage, j'ai pas hésité une seconde. Et puis partager la scène ensemble, c'était très sympa.
On s'est bien amusé, c'était très touchant. Et j'ai lu une lettre, une sorte de déclaration à Camille sur scène. Elle était extrêmement embarrassée. Et puis,
j'étais un petit peu troublée.
Et puis ensuite,
sous mes airs.
Et ensuite, elle s'est mise au violoncelle et a joué. C'est un air de Chopin en fait. Jane B, c'est un air de Chopin où Serge Gainsbourg a mis ses mots. Signalement, yeux bleus, cheveux châtains. En fait, c'est comme une fiche signalétique de la femme de sa vie que Gainsbourg a écrite pour Jane Birkin. Et c'est une déclaration d'amour
et donc ça
absolument
devait faire,
sublime.
Ça devait faire partie de votre spectacle.
Exactement.
Évidemment.
Voilà.
Camille, comment est-ce qu'il est avant d'entrer en scène, Frédéric Becbédé? Est-ce qu'il a des tics, des tocs pour lutter contre le trac?
Comment il est en scène, Frédéric? Avant de rentrer en scène, on est tous un petit peu fébriles. Hein. Je me souviens qu'on s'est croisés dans la rue et que tu m'as demandé « Et toi, t'as l'impression de mourir aussi quand... ?» Quand tu vas rentrer en scène, et je t'ai dit oui à chaque fois. Mais une fois qu'on rentre en scène, ça va, et c'est ce que tu viens de dire, parce que j'écoutais l'émission. Et c'est vrai, hein, une fois que c'est parti et que le public est là, et qu'il est là en fait pour recevoir cette histoire sur l'amour, moi quand je joue recevoir la musique, eh bien, on est juste là pour leur donner.
Mais je crois
Mais
qu'il
y a une autre petite chose que j'ai remarquée dans ta loge.
Oui, la bouteille.
Là, non, je n'allais pas parler de ça. J'aurais pas osé. Mais les fraises Tagada.
Ah oui, c'est vrai. Oui, oui.
Et d'ailleurs, on avait eu un petit une question qui m'avait touchée d'ailleurs, parce que donc là, le metteur en scène m'avait dit qu'il faudrait que tu sois une arrivée évanescente. Donc j'étais arrivée avec une robe grecque évanescente blanche.
Et Frédéric, ça lui plaisait pas trop.
Non, mais tu avais peur que ça fasse un peu gnangnang, musique classique. Et c'est justement ce que j'ai pas du tout envie de donner comme message. Donc j'étais plutôt touchée que tu partages mon souci.
Ah oui, oui.
Mais
en fait, ensuite,
le metteur en scène m'a écrit ensuite. On lui a donné tout plein de fraises tagada et maintenant il aime ta robe.
Voilà, comme quoi les fraises tagada, ça peut résoudre beaucoup de choses avec Frédéric Valbédé. Voilà. Merci beaucoup Camille Thomas d'avoir partagé ces anecdotes avec nous, ces anecdotes de scène.
Il faut voir, le spectacle est magnifique.
Eh bien, c'est bientôt.
De François Sagan à la fin, c'est
très émouvant. Visiblement, c'est bientôt très au émouvant. Théâtre Édouard VII en fin de semaine prochaine. Merci
Camille.
Frédéric Becbédé, à bientôt. Frédéric Becbédé, on parle de la scène là, de ce spectacle que vous avez partagé avec Camille Thomas, mais en fait, vous avez tellement d'activités que je voulais savoir comment vous définiriez, quel est finalement le métier qui vous définirait le plus. Est-ce que c'est romancier? Est-ce que c'est éditeur? Est-ce que c'est acteur? Est-ce que c'est réalisateur? Est-ce que c'est publicitaire qui était le...
Non, mais je ne suis plus éditeur depuis fort longtemps, hein, mais en revanche, c'est vrai que c'est toujours de l'écriture. C'est-à-dire, monter sur scène, il faut écrire un spectacle. Le spectacle, il change tous les soirs. Je change des choses, j'améliore, j'enlève certains textes, j'en mets d'autres. Là, ce que je fais dans la presse, c'est écrire. Quand je suis metteur en scène, il y a un scénario à écrire avant. Et les romans, bien sûr, je continue. J'ai un roman que je commence en ce moment. Donc, finalement, je n'ai pas l'impression de faire tellement de métiers. J'ai l'impression que je suis toujours tout seul dans mon coin à écrire et puis ensuite sur différents supports. Voilà.
Et ça devient votre vie. Votre vie, on va continuer d'en parler dans un instant dans votre journal inattendu. Le journal inattendu de Frédéric Becbédé avec Nathalie Renaud sur RTL. RTL.
Le journal inattendu.
Frédéric Becbédé, Nathalie Renaud. Il faut en parler, la façon dont vous la menez, Frédéric Becbédé. Longtemps, vous avez cherché la compagnie de la cocaïne. Vous ne vous en cachiez pas et vous racontez que désormais, vous lui avez dit au revoir. C'est terminé. Comment ça s'est passé? Est-ce un sacrifice ou est-ce une libération?
Sûrement une libération, mais il faut savoir que c'est une maladie et que c'est compliqué, il y a des rechutes. Mais je pense que j'ai essayé d'expliquer ça justement pour que ceux qui pourraient être tentés, parce que c'est quelque chose qui est un peu glamour quand on a 20 ans, on peut basculer là-dedans. Et simplement, j'ai voulu décrire, c'était dans Confession d'un hétéro, il y a tout un chapitre assez long où j'explique comment on rencontre ce produit, comment on est en danger à certaines périodes dans sa vie, et puis ce que ça fait comme dégâts. Et je crois que c'était important pour moi d'en parler pour que ça, au moins tout ce gâchis serve à quelque chose. Voilà.
Vous l'appelez un gâchis?
Oui, parce que c'est un plaisir comme l'alcool, mais au bout du compte, c'est beaucoup d'amnésie, beaucoup de dépression, beaucoup de lendemains malheureux. C'est quelque chose qui est extrêmement nuisible. C'est une banalité de le dire, mais c'est une addiction. Il faut savoir surmonter ces addictions ou remplacer ça par autre chose.
En revanche, vous dites que vous n'avez jamais écrit ni en prenant de la cocaïne ni en buvant. Vous avez toujours écrit l'esprit clair.
C'est Hemingway qui disait on peut écrire bourré, mais le lendemain faut bien relire. Et c'est vrai que non, la drogue fait pas, enfin en tout cas sur moi n'avait pas des effets d'inspiration. Je dirais que c'était plutôt répétitif. On est persuadé qu'on est génial et on ne l'est pas. Donc non, je déconseille ça. Mais en revanche, un verre de vin blanc, ça peut désinhiber. Et souvent, ce qu'il faut, c'est perdre sa timidité quand on écrit. Parce qu'on a peur, c'est très intimidant, toute la littérature, tous les génies qui nous ont précédés. Donc, un petit verre de blanc ou de bière, Charles Bukowski buvait beaucoup de bière et il avait écrit de très belles choses.
Attention à ne pas remplacer une addiction par une autre.
Non, c'est ça. Non, bien sûr. Mais non, mais de toute façon, maintenant, vous savez, ma vie a tellement changé.
Alors justement, je voulais qu'on parle de votre changement de vie. Ça s'est passé aussi par un déménagement. Vous vivez aujourd'hui dans le Sud-Ouest, on en parlait tout à l'heure. Guétari, le Pays Basque. Pourquoi ça change tout aussi d'habiter loin des grandes villes?
Oui, bien sûr. C'était un bon. J'ai eu des enfants qui sont petits et pour eux, j'avais envie qu'ils aient une enfance à la campagne, au contact de la nature. Et puis pour moi aussi, c'était l'occasion d'un renouveau. Et comme je vous dis, j'écrivais beaucoup la nuit. Maintenant, j'écris quand ils sont à l'école, donc j'écris plutôt le matin. On a l'esprit un peu plus clair le matin pour travailler. Non, tout a changé, bien sûr. Mais je sais que c'est assez banal. Il y a beaucoup de Parisiens qui quittent la ville. Maintenant, quand je reviens à Paris, je suis émerveillé. Alors, c'est assez bizarre. Je suis comme un touriste dans ma propre ville. Je regarde les monuments, j'ai les yeux écarquillés. J'adore me faire engueuler par tout le monde. C'est quelque chose que je ne supportais plus. Et maintenant, je trouve ça exotique.
Donc, vraiment, vous pensez que la vie parisienne est trépidante et que les Parisiens sont finalement assez agressifs ? Depuis votre vision de provincial.
Oui, je pense qu'ils sont malheureux, ils sont stressés. La vie est très très chère à Paris. Donc, il y a de la pollution, il y a du bruit. Et c'est difficile, c'est une vie assez brutale.
Finalement, vous êtes devenue une publicité vivante pour la modération, l'arrêt de la drogue, la modération en alcool, la modération dans le rythme.
Tout à fait, je suis devenue très très chiant.
Je n'osais pas y venir.
C'est ce que vous vouliez me dire.
Non.
Non, mais je crois en la sobriété heureuse. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est possible et qu'on peut vivre mieux avec moins. C'est d'ailleurs ce qu'on va tous, toute l'humanité, être obligé de faire dans les prochaines décennies.
Qu'est-ce que vous espérez que l'on retienne de vous à l'avenir, dans plusieurs dizaines ou centaines d'années? Est-ce que vous espérez qu'on retienne quelque chose de votre œuvre, notamment?
C'est très dur de répondre à cette question. Vous savez, Céline dit que la postérité, c'est un discours aux asticots. Moi, je ne sais pas du tout ce qui restera. J'ai vécu pleinement mon temps. J'ai essayé de le raconter dans des romans qui sont comme des photographies d'une époque, les années 80, 90. Si aujourd'hui on veut savoir ce que c'était que cette vie, on peut lire certains de mes livres ou de mes confrères. Houellebecq, Ravalec, Virginie Despentes, on aura une idée de ce que c'était que les années 90, qui étaient tellement différentes de ce qu'on vit aujourd'hui. On avait une liberté inouïe quand on y réfléchit.
Et vous lire, ce sera le témoignage de ces années-là.
Peut-être que c'est ça. Peut-être ce qui restera, c'est ça. C'est une photographie, un polaroïd de cette époque, de ma jeunesse.
Merci beaucoup Frédéric Becbédé d'être venu ici dans ce journal inattendu pour nous parler de ce dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, de ce spectacle « L'amour dure 1h15 » que vous jouerez au Théâtre Édouard VII en fin de semaine prochaine. Ça a été un plaisir de passer cette heure avec vous. La semaine prochaine, je recevrai Anne Roumanoff et je vous laisse avec Laurent Deutsch qui s'intéresse à Alexandre Dumas dans « Entrée dans l'histoire ». Très bon après-midi. Sur RTL, bien sûr. RTL, le journal inattendu.